Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci d'être déjà nombreux pour sa première rencontre à 10h, et en particulier sur un thème qui est à la fois un thème qui concerne l'ensemble du public, des lecteurs, mais évidemment autant les professionnels, à la fois ceux qui organisent les festivals, les acteurs du livre, je pense évidemment au CNL ou à la DRAC ou à d'autres structures, et aux écrivains, aux éditeurs. C'est l'ensemble de la chaîne du livre qui est évidemment concerné par le statut des auteurs, sur lequel pèsent, je crois que vous l'avez tous compris, des menaces sérieuses, et y compris des propositions dont certaines sont purement inadmissibles. Là, je le dis parce qu'on l'oublie peut-être, comme je suis directrice artistique des Imaginales. Je suis aussi une auteure, non pas une auteure de fiction, ce n'est pas mon métier, mais ce qu'on appelle une auteure de non-fiction, c'est-à-dire que je publie des essais, je publie des articles, je publie des préfaces. Je fais aussi des formations, là c'est différent. Et enfin, je suis directrice de collection. Pourquoi je le signale ? Parce que parmi les projets gouvernementaux actuels, il y a l'idée de s'en prendre au statut droit d'auteur, et en particulier de supprimer le statut de droit d'auteur pour les directeurs de collection, ce qui veut très concrètement dire que c'est notre métier. Donc des acteurs quand même qui travaillent sur les manuscrits avec les auteurs, donc ça n'est pas négligeable, ce métier est clairement menacé, et d'autres aussi. Voilà, c'est pour situer le contexte, pour que la discussion qui pèse sur la rémunération des auteurs en salon ne soit pas coupée de l'ensemble d'un dispositif qui est, je pense que nos deux responsables syndicales que je vais vous présenter ici présentes seront d'accord au moins sur ce point avec moi, et j'en suis convaincu, c'est que c'est toute une chaîne du livre et que la problématique de la rémunération des auteurs, du statut des auteurs, du droit d'auteur et en fait de la dignité de ce métier et d'une rémunération suffisante pour permettre à un volant important d'auteurs qui travaillent à plein temps sur leur métier d'écriture. Certains peuvent être à mi-temps ou faire le choix d'avoir un autre métier à côté, mais il faut que ce soit un choix et non pas une obligation, en tout cas pour les plus talentueux d'entre eux. Alors, je vous présente nos invités et intervenants. Je commence par Lionel Davoust, que vous connaissez bien. Lionel Davoust est écrivain, donc il aura évidemment un point de vue d'écrivain sur cette question de la rémunération des auteurs en festival, dont on parlera beaucoup dans la première partie, mais je voudrais, avec l'accord de tout le monde, conclure sur les problématiques générales et les combats qui sont devant tous ceux qui aiment le livre. Parce qu'on verra qu'on peut avoir, comme on dit, des contradictions au sein du peuple. On disait dans mai 68, c'est le 50e anniversaire, mais que quelque part, on a tous intérêt à avancer, peut-être pas dans la même pas, mais dans la même direction, ou alors c'est qu'on n'a pas compris les uns les autres quels sont nos intérêts bien sentis. Lionel Davoust, donc écrivain, c'est à ce titre qu'il est là, mais il est aussi, vous le savez, depuis 2002, un des excellents traducteurs des Imaginales. J'en profite pour le remercier et à travers lui remercier l'ensemble de nos traducteurs de l'anglais, mais aussi d'autres langues, comme cette année du russe. Sarah Dock, qui est aussi auteur avec plusieurs casquettes, puisque je disais qu'il y a des auteurs de fiction et de non-fiction. Dans le cas de Sarah, était journaliste, est aussi une traductrice, et une traductrice reconnue pour la qualité de son travail. C'est aussi une auteure, en particulier de nouvelles, qui a publié déjà un premier livre chez Les Moutons Électriques. Et puis, par ailleurs, c'est une des représentantes historiques de ce qu'on appelle le SELF, le syndicat des écrivains de langue française, dont Heyerdahl a été un des leaders et qui a gagné, et Sarah était avec Heyerdahl une des parties prenantes de ce combat, qui a gagné son combat devant la Cour européenne de justice pour faire condamner Relire, qui était cette entreprise de pillage des droits d'auteur sans le consentement des auteurs et dont les bénéfices étaient totalement reversés seulement aux éditeurs. Il y a vraiment des systèmes comme ça, il n'y a que des gens coupés du réel qui peuvent l'inventer. Nous avons ensuite Samantha Bailly, qui d'abord est là aussi une écrivaine. Je tiens à rappeler qu'elle a d'abord gagné le prix Imaginal des lycéens, c'était son premier roman, c'était son premier prix, c'était sa première invitation. C'était sa première grande rencontre avec le public. C'était les Imaginales qui lui ont d'emblée fait confiance, qui ont tout de suite vu, quand elle était toute jeune, le talent. Là, aujourd'hui, elle est un peu plus une femme assumée, assurée. Et c'est aussi une dirigeante syndicale, parfois rude. J'ai plaisanté avant le festival sur Twitter pour dire il vaut mieux être son ami que son ennemi. Heureusement, Samantha est une amie, je le redis ici, même si on va avoir quelques points de nuance, voire de désaccord. Mais je pense qu'à la fin de ce débat, on devrait, à mon avis, sauf si je me suis trompé, que j'ai mal compris, devrions pour l'avenir tomber complètement d'accord. Donc Samantha Bailly. Et puis elle nous expliquera aussi à la fin du débat, j'espère, les autres enjeux. Stéphane Vizère, qu'on ne présente plus, comme on dit déjà pour Pierre Bordage. Stéphane Vizère est un homme de culture depuis bien longtemps. Je le connais depuis l'époque où je dirigeais la revue de science-fiction Galaxy et où il avait eu la gentillesse et, je pense, l'intelligence culturelle de comprendre qu'une petite revue pouvait avoir un rôle dans tout ce grand mouvement de la littérature. Il avait donc beaucoup soutenu la revue que je dirigeais. C'est comme ça qu'on a eu le plaisir de se rencontrer, de travailler ensemble. Quand il est arrivé aux affaires comme directeur adjoint, puis le directeur des affaires culturelles d'Épinal, ben, évidemment, on se connaissait bien, on avait déjà travailler ensemble, donc ça a été très facile de travailler avec lui comme je le fais depuis des années, et il a à mes côtés, évidemment, et lui au nom de la ville d'Épinal et comme fonctionnaire d'Épinal, directeur des affaires culturelles, il a, et j'en profite pour lui rendre hommage, contribué à donner une dynamique, à ouvrir, à avoir des idées nouvelles, et je peux dire qu'on fait un vrai tandem culturel et que c'est un bonheur de travailler avec lui. C'est dit, on applaudit Stéphane parce que vraiment, on oublie les directeurs parfois des affaires culturelles, directeurs de festivals. Voilà, j'ai présenté tout le monde. Je suis juste votre modératrice, votre madame loyale. J'ai voulu poser un peu le décor. Maintenant, la parole est à vous. Commençons, Samantha Bailly, par les auteurs en colère.
Alors, avant toute chose, je voudrais raconter une toute petite anecdote sur la charte, parce que vous allez voir qu'en 1975, les choses n'étaient pas si différentes. La charte des auteurs illustrateurs jeunesse, donc, elle a été créée en partie par Christian Grenier à un moment donné où il y avait une époque où toutes les interventions scolaires ou les animations étaient bénévoles. Donc vous étiez un auteur jeunesse, il raconte, il prenait le train, il arrivait, il y avait un enseignant qui lui filait les clés de la voiture, il lui disait voilà, maintenant pendant 3 jours, tu vas faire toute la tournée des classes et des établissements scolaires et on se retrouvera au gîte à un moment donné. Et donc le dernier jour au gîte, l'organisateur lui annonce, après qu'il ait fait toute la tournée bénévole de tous les établissements scolaires, finalement, on ne pourra pas payer tes repas et puis pas non plus ton train de retour et en fait pas non plus ta chambre d'hôtel. Donc, il y a eu une petite révolution des auteurs. Ils étaient 4, hein, ce n'était pas non plus. Hein, voilà. Déjà, à l'époque, c'était des débats dans la chambre sur « Quoi, tu es en jeunesse, tu as 6% ?»« Mais attends, moi, je fais de la fantaisie, j'en ai 8, je ne comprends pas. » Et c'est ainsi qu'est née la charte. La charte est née de ça. Et donc, en 75, septembre 75, les tarifs de la charte sont nés. 100 francs la demi-journée, 200 francs la journée. Et les auteurs racontent comment ça a démarré. Et les deux premières années, ils se faisaient insulter sur les festivals par les auteurs eux-mêmes et par les organisateurs de festivals pour avoir mis en place cette rémunération parce que tout tournait autour du bénévolat. Bon, des années plus tard, quarantaine d'années à passer, au sein de la littérature jeunesse, et je parle de la littérature jeunesse, c'est un acquis. Quand vous allez en festival, quand vous allez en rencontre, vous êtes rémunéré non seulement pour vos interventions scolaires, mais aussi pour votre temps de présence en dédicace. Et moi, je suis présidente de cette association-là, qui a maintenant 45 ans de vie autour de tout ça, et c'est ce que je représente. Et je voulais raconter cette anecdote, parce que je trouve ça très intéressant de le souligner, à quel point il est normal qu'il y ait des frictions quand il y a des changements, mais que le changement arrive.
Moi, je voulais raconter une autre anecdote, c'est que la rémunération des auteurs n'est pas venue au départ du CNL. Au départ, c'est le motif créé par Yves Frémion, président du CELF à l'époque, qui a popularisé cette rémunération des auteurs en intervention dans les festivals, essentiellement en Île-de-France. Vincent Monadet a été président du motif, et c'est à partir de ces combats-là qu'il a lancé cette motion et repris les choses qu'encourageait le motif.
On a planté le décor.
Mais c'était important, ça permettait de démarrer avec un cadre. C'est pour ça qu'aussi je tenais à ce que nos amis s'expriment tout d'abord. La rémunération donc des auteurs en festival, très concrètement, ce n'était pas une problématique et on n'a aucune honte à le dire parce que les chemins qu'on fait, ben, on vient de quelque part. C'est important de le dire parce que je suis partie prenante de cette activité littéraire et depuis longtemps, je suis venu à l'imaginaire par passion. C'est-à-dire, c'est parce que j'adore la lecture et j'adore les livres d'imaginaire que j'ai commencé à faire des chroniques en 1980 dans la revue Fiction. Pour vous dire à quel point j'étais peu professionnel, quand j'ai reçu un mot d'Alain Dorémieux, directeur de Fiction, qui venait de prendre le poste, qu'il a cherché à recruter une équipe, j'ai reçu sa lettre circulaire, comme 50 autres personnes, dont Jean-Pierre Andrevon, excusez du peu, et parce que je faisais un petit fanzine et qu'il avait trouvé que ce que je faisais n'était pas totalement nul. Et qu'en plus, comme il ne payait pas très cher, des jeunes, ça pouvait être utile, normal. Quelque part, vous allez voir pourquoi je raconte cette anecdote qui n'est bien sûr pas personnelle, ça n'aurait aucun intérêt. Je réponds gentiment que si mon aide est utile, bien sûr, je suis prêt à aider. Mais c'est tout. Et 2 mois plus tard, j'ai un de mes meilleurs copains qui se précipite en disant « Ouais, quand même, t'es gonflé, t'aurais pu me prévenir que tu faisais partie maintenant de Fiction, c'est quand même moi qui t'ai fait découvrir la SF et la photo. » Je dis « Qu'est-ce que tu me racontes là ?» Il me dit « Allez, allez !» Il ouvre l'ours, comme on dit, là où on met les gens qui travaillent pour la revue, rédacteur en chef Alain Dorémieux, adjoint machin, comité de rédaction, et je vois mon nom. Et là, j'hallucine parce que je n'avais pas compris. C'est-à-dire, je suis embauché comme critique littéraire dans la grande revue d'imaginaire de l'époque. Je n'ai pas compris que j'étais embauché, que la lettre, c'est une proposition, pas un poste salarié, mais de critique littéraire. Et voilà comment je démarre ma carrière à temps partiel, parce que j'ai un autre métier à côté et parce que je n'ai jamais pensé faire de l'imaginaire mon métier. Et puis, progressivement, les hasards de la vie feront que ça finira, comme un certain nombre de gens, par représenter la moitié de mes revenus semi-professionnels. Et puis, aujourd'hui, l'essentiel de mes revenus, parce que je ne fais plus que ça, et que voilà, je suis avant tout quelqu'un qui travaille dans l'imaginaire. Voilà, des histoires comme la mienne, dans ma génération, pourrait vous en raconter plein. On est tombé là-dedans par passion, et du coup, on n'a pas appris à se défendre, on n'a pas appris à revendiquer, on n'a pas appris à dire, bah là, tu m'en fais un peu trop pour que tu me payes, on n'a pas pensé à dire, bah, on vaut ça quand même, vu les résultats qu'on a. On n'est pas habitué à négocier, on n'est pas habitué, c'est pas parce que les autres sont méchants, c'est juste que c'est un dialogue qui n'a pas lieu parce qu'on ne sait pas. Et que la première fois de ma vie qu'une fille m'a demandé en me disant, ben, votre projet est validé, on vous fait confiance, vous êtes directrice artistique, vous avez le poste, vous demandez combien ? La fonctionnaire que j'étais restée, elle a demandé 24 heures pour envoyer un, parce que je ne savais pas quoi me dire. J'en avais aucune idée. Et ça, voilà, c'est pour vous situer quelle est, et je pense qu'on pourrait tous dire ce genre de choses, là aussi ça aide à planter le décor. Sarah.
Ce que je voulais dire, c'est que dans cette génération-là, il y a le révolutionnaire, celui qui a tapé du poing sur la table, celui qui a, avec des textes, avec des grands discours, lancé vraiment le combat des auteurs, ne serait-ce qu'à partir de 2000 avec la création du droit du cerf, c'était à Jordal.
Vous noterez d'ailleurs que même si on a pu avoir des échanges un peu vifs, des débats, on verra le désaccord tactique qu'on a pu avoir, mais je crois qu'il va pouvoir se résorber à la fin de ce débat, et en tout cas à partir de l'année prochaine, vous verrez que c'est malgré cela, et peut-être à cause de ça aussi, qu'Ayerdal est le premier auteur, on n'était pas pressé, mais c'est comme ça, le premier auteur à avoir une plaque, une place à Ayerdal, dont vous n'avez peut-être pas eu l'occasion encore de le regarder en passant dans les allées, et c'était un ami de la ville d'Épinal, bon, c'est pas tous pareil hein, avec les élus, discuter, passionné en privé, mais Ayerdal était reconnu comme un très grand écrivain, mais aussi que quelqu'un d'une sincérité, d'une franchise, d'une honnêteté. Des syndicalistes comme ça, même quand on n'est pas d'accord avec eux, on a de l'estime pour eux, et c'est une occasion de lui rendre cet hommage au-delà de l'écrivain qu'il était. Il a fait beaucoup pour les auteurs, et je pense que sans son action, mais aussi la chaleur humaine qu'il dégageait, c'était pas un syndicaliste, un syndicaliste de combat, mais pas haineux. Voilà. Et je pense que ça, c'est important aussi. C'est qu'on peut, y compris, être bousculé, on peut ne pas être d'accord, s'engueuler. Ce qui compte, c'est qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, dialoguer et avoir de bons compromis. Mais Stéphane Vizère, justement, vous qui êtes dans l'œil du cyclone, vous êtes directeur du festival. Quand on l'a créé, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé ces questions-là. Parce que quelque part, on était convaincus, et ça reste une partie de la vérité, on était convaincus de faire avec ce festival quelque chose pour la ville, la faire connaître plus encore. Quelque chose pour le public qui allait arriver, on en était convaincus, on avait raison, mais aussi quelque chose pour les auteurs dont on avait l'intention de les mettre en valeur. Ça ne nourrit pas et on en parlera, mais de les mettre en valeur, de faire connaître leurs œuvres, de les faire accéder au public, de faire que leurs livres se vendent, de faire que, etc. Et pas de reconnaissance abstraite, mais une rencontre concrète avec des publics. Et que donc ce festival était un instrument, à notre avis, de la chaîne du livre qui pouvait être au service de tous et donc des auteurs. C'est un peu comme, un peu, je crois que c'est comme ça qu'on a vu les choses. Et donc, la question de la rémunération au salon ne s'est jamais posée. En revanche, dès le début, tout a été clair, c'est-à-dire qu'ils étaient hébergés, ils avaient des tickets repas, et par ailleurs, évidemment, non seulement leur voyage était remboursé, mais en fait, sauf s'ils venaient en voiture, ce qui nous complique la vie pour des raisons que vous comprenez, parce que voilà, mais tous ceux qui acceptaient la formule « je viens en train et les chauffeurs nous récupèrent », eh bien, ils reçoivent à domicile les billets de train. Ça peut paraître rien, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas avancé. Quand vous avancez 200 euros de billets de train sur 5 festivals dans les semaines qui suivent, bah, quand vous gagnez ce que gagnent beaucoup d'auteurs, je peux vous dire que ça vous met en difficulté. Donc Stéphane Wieser, maintenant je vais lui donner la parole peut-être pour s'exprimer plus longuement. Justement, par rapport à cette conception, on a vu arriver il y a 4-5 ans les revendications des auteurs, paye ton auteur, c'était plus tard le hashtag, mais en tout cas la demande de rémunérer les auteurs en salon. Au départ, on n'était pas convaincus, ni Stéphane ni moi. Peut-être qu'il explique pourquoi, ça peut être intéressant, et pourquoi aussi on a changé d'avis.
Alors effectivement, en fait, les festivals, comme l'ensemble des acteurs qui se mobilisent pour pouvoir accueillir, mettre en avant, enfin voilà, on fait partie de la chaîne du livre de façon globale, en fait, je pense. Il va y avoir des exceptions qui sont, je dirais, de l'ordre de la malhonnêteté, en fait, ce que tu viens de raconter, Samantha, et quand même sur le départ de l'action. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, absolument.
Pour révolter les auteurs jeunesse à l'époque, je pense qu'il en fallait beaucoup.
Oui, mais l'affaire voilà. que tu racontes est absolument révoltante et méritée, effectivement. Alors après, ça a permis de poser une question qui était une question différente en se disant, ben voilà, quelle est l'économie du livre, comment ça peut se faire, etc. Est-ce que les auteurs peuvent vivre de leur livre, de leur rémunération, de choses comme ça. Moi, je suis arrivé par un autre domaine. Moi, je suis plutôt arrivé du monde de la librairie. Donc, en fait, pour moi, de façon globale, culturelle, etc., en fait, on s'est toujours, parce que je dirais, battu par rapport à des textes et des auteurs qu'on appréciait, qu'on voulait faire partager, de manière à pouvoir mettre en avant des auteurs qui étaient peut-être parfois moins connus, qui avaient besoin d'avoir des soutiens. On faisait des rencontres en librairie, beaucoup, etc., qui n'étaient jamais rémunérés. Enfin, mais à chaque fois, bien évidemment, je dirais que le minimum, c'est de pouvoir prendre en charge tous les frais, accueillir honnêtement et correctement. Là aussi, j'ai une petite anecdote. En fait, j'ai voulu faire des rencontres au niveau de la bande dessinée. Et puis, voilà, la bande dessinée, c'est un petit peu particulier. Je me dis, bon, voilà, mais je ne connaissais pas à l'époque, j'étais tout jeune. Les éditeurs me disent, oh non, les auteurs, ils ne sont pas disponibles avant 2020. Enfin, bon, je me dis, oh, 2020, je vais être en retraite. Enfin, non, je ne serai pas en retraite, mais bon. C'est pas normal, etc. Donc, j'étais dans un salon. Et puis j'étais voir quelques auteurs que j'appréciais, etc. Et puis on me dit, oh, attends, à l'époque je travaillais déjà dans l'Est de la France, qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde, pour être poli, à venir te voir, à 19h on va me fermer une porte au nez, etc. En me disant, ben voilà, démerde-toi, moi je suis mieux avec ma famille, etc. Je dis, ouais, mais là... Et dimanche, tu crois que moi j'ai traversé la France pour te fermer la porte au nez quand tu viendras ? Il me dit, ah ouais, bonne réponse. Ouais, ça me paraît sympa, bon, ok, venons. C'est comme ça qu'on a commencé les rencontres en bande dessinée. Il y en a eu beaucoup et beaucoup de très très belles rencontres. Voilà, donc on était sur ce milieu-là. Quand il y a 4 ans, 5 ans, j'ai pris la direction du festival. C'était le début, effectivement, le tout début. Par le CNL, des rencontres qui sont faites en disant, voilà, il faut payer les auteurs en festival. Alors, il faut...
C'était en 2015 ou en 2014 ?
En 2014.
2014, ouais.
Je pense 2014, voilà. Moi, j'étais invité à une première rencontre à Paris, au CNL, et puis avec ta prédécessrice qui était là, on était 3 festivals représentés, il y avait après un certain nombre d'institutionnels, et j'ai trouvé que c'était violent. Et je pense que tous les festivals qui étaient représentés, en fait, il y avait le livre sur la place, Françoise Rossineau, il y avait aussi le directeur du salon de Brive. Et on s'est tous pris quand même quelque chose d'assez violent. Bon, ça nous a fait réfléchir hein, par rapport à ça. On s'est dit, bon, on n'a pas forcément, mais en tout cas, ce n'était pas dans notre économie, ce n'était pas dans notre logique, etc. On a regardé très rapidement derrière, je dirais, dans les 6 mois, il n'y avait aucun dispositif qui avait été mis en place. Hein. Enfin, voilà, nous, il fallait qu'on avance, etc. Moi, j'ai regardé combien ça pourrait coûter pour le festival, en me disant, ben voilà, bon, combien c'est. Enfin, moi, je suis un gestionnaire, hein, du coup. coup pour les choses. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, etc. Donc il y avait, c'était une préconisation. Il n'y avait rien de défini, etc. Et puis j'en suis arrivé à un calcul en me basant sur la charte des auteurs jeunesse. C'est ce qu'on avait, c'était la référence.
La référence, c'est la grille du CNL qui est mise en ligne depuis 2015, et j'insiste là-dessus. J'ai confirmation de la SGDL, du SNAC BD, de la TLF, qui était là aussi à la période de ces négociations, et qui est une grille qui est en dessous du tarif de la charte, puisque c'est 150 euros net la table ronde, alors que le tarif charte, c'est 227 euros la demi-journée et plus de 400 euros la journée. Après, c'est un peu normal, parce que c'est vrai qu'une table ronde, c'est pas la même chose non plus qu'une journée complète.
Moi, j'étais à l'époque, en fait, le tarif de 150 euros n'était pas arrivé. Alors après, bon, voilà, il y a eu différentes étapes, etc. On est arrivé au CNL en disant, ben voilà, pour nous, ça représente plus de 25% du coût du festival, si on est sur la rémunération. Ils m'ont dit, c'est pas possible, vous savez pas compter, ou ben écoutez, c'est possible, je suis pas non plus. Donc, j'ai sorti mes dossiers, puis j'ai dit, ben, recomptons ensemble, enfin, regardons, dites-nous, voilà, sur la base. Et là, ils sont restés un peu sidérés en me disant, mais on n'avait pas pris conscience de tout ce qui était fait, de tout l'investissement des auteurs sur votre événement. Vous êtes plus important que... Voilà. Je dis, ben oui, j'en sais rien, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, on avait des difficultés pour nous, pour pouvoir se dire une somme comme celle-là, la sortir d'un seul coup. Voilà, très rapidement, on a dit, on est d'accord sur le principe, puisqu'on a réfléchi, donc sur le principe, dès 2015, on s'est dit, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Mais par contre, il y a une réunion qui s'est faite avec le député-maire ici, avec le président du CNL, ça s'est fait à Paris, on a eu un certain nombre d'explications qui ont été faites. Alors je ne vous dirais pas que le député-maire a sauté de joie en disant « ouais, chic, stomp. » Mais il a eu cette réaction, et je tiens quand même à le dire, parce que, à saluer, parce qu'on est dans une municipalité, je pense, qui est respectueuse, vraiment, qui tient à être respectueuse des différents éléments, etc. Enfin, bon, moi, j'ai vraiment apprécié ces discussions qu'on a pu avoir tous ensemble. Donc voilà, il n'a pas sauté de joie. Il a plutôt me dit l'État est encore en train de continuer à reporter des charges sur les collectivités, on ne va pas s'en sortir, etc. Mais il me dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez? On a fait ce festival, non pas contre les auteurs, mais pour pouvoir les soutenir, les aider. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ben, oui, c'est, on est dans ce module-là. Donc on a regardé ça, et on a regardé ce qu'on pouvait monter. Très vite, on a dit, à la sortie de cette réunion, on a dit, on est d'accord pour rentrer sur un principe de rémunération des auteurs, mais on va regarder techniquement comment on peut le faire et comment on va pouvoir le monter. Et donc, voilà, depuis cette date-là, on a une rémunération qui s'est faite, alors qui ne correspond pas exactement à la grille, c'est-à-dire qu'entre-temps, la grille de 150 euros est arrivée, qui n'était pas forcément, je dirais, qui est un tarif plus favorable que le tarif, enfin plus favorable, si on peut parler de ça, c'est pas, mais en tout cas plus réduit, plus modeste que celui qui était par la charte des auteurs jeunesse, mais qui n'est pas calculé de la même façon. Donc si on est l'un dans l'autre, en fait, c'est une somme qui est encore un petit peu supérieure pour nous à sortir. Et il fallait qu'on puisse le mobiliser sans, je dirais, avec deux éléments importants pour nous, en structurant le festival pour qu'il puisse durer et que ça ne le mette pas en péril, puisque je pense que ça, c'était déjà quelque chose qu'on ne souhaitait pas nous, et puis ce n'était pas quelque chose qui était souhaitable pour l'ensemble de la filière du livre, puisque je pense qu'on a notre rôle à jouer dedans, et que tout ça est favorable pour tout le monde, et qu'on se bat dans le même sens. Et la deuxième chose, c'était de se dire aussi que... il fallait qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin un certain nombre d'auteurs. Parce que dans les premiers débats qu'on a eus, on m'a dit, écoutez, c'est très simple, vous avez à l'époque 130 auteurs invités, vous en avez 50 de trop ou 60 de trop. Invitez moins d'auteurs, vous pourrez les payer de façon correcte et tout le monde sera content. Alors moi, j'étais assez sidéré de cette question-là. Alors on peut se poser la question, dire oui, il y a trop d'auteurs. Mais en fait, on n'est pas non plus, je pense, complètement dénigri, et on est aussi...
Non, je trouve qu'il y a une nuance, c'est que c'est très différent les auteurs qui sont invités des auteurs qui interviennent. Parce que la rémunération, en tout cas telle qu'elle est articulée, c'est sur les conférences.
On est d'accord.
C'est pas sur les dédicaces.
Oui, oui, tout à fait, Samantha. Alors, en fait, nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un principe, et c'était le principe qui était fixé avant que je n'arrive, qui était de dire, à partir du moment où un auteur est invité officiellement par le festival, il intervient au moins sur un débat. C'était le principe qu'on avait. Après, c'était le choix culturel, etc., du festival. Donc, on s'est posé cette question-là. On s'est dit, on peut inviter moins d'auteurs. De toute façon, après, on peut chercher le budget par rapport au prix, puisqu'en fait, le premier budget qu'on a, je tiens à le signaler, ce n'est pas les Magic Mirror, mais c'est bien le déplacement des auteurs, c'est bien l'hébergement, et c'est bien la partie artistique. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc, on pouvait trouver effectivement une marge de manœuvre par rapport à ça. La volonté, c'était de se dire aussi après, mais si on ne met pas tous les auteurs en débat, lesquels on va mettre en débat ? Alors, quel va être le choix ? Parce que tous ces auteurs-là, on a envie de les défendre. Parce que aussi, on a été regardé et on a la chance d'avoir un petit peu d'outils marketing. Hein, je vais parler de gros mots, mais c'est important qu'on puisse avoir ça. C'est-à-dire qu'en fait, on suit la vente des livres qui sont faites pendant le temps du festival, on les suit un peu heure par heure, grâce au travail de nos libraires par rapport à ça. Et c'est assez flagrant, ça aussi je l'ai montré en fait au CNL, à la sortie d'un débat, les livres se vendent. Voilà.
Alors c'est, donc, il y a un impact se vendent, économique.
Il y a un impact économique, oui, je suis d'accord, ben, on est dans ce cadre-là, et enfin, c'est complètement... revendiqué, et cet impact économique qui se fait, alors je dirais presque plus de façon plus importante sur des auteurs qui sont peut-être un petit peu moins connus, voire sur des premiers romans, puisqu'en fait si on invite un premier roman aujourd'hui pour un festival et qu'on le met je dirais entre deux auteurs qui sont déjà bien connus, etc., ben, il va regarder les files d'attente sur les auteurs bien connus et puis il va passer et puis ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, pas grand chose. Si cet auteur de premier roman il participe à un débat et puis qui présente son univers avec des auteurs qui sont déjà plus reconnus, ça lui donne, je pense, une chance de pouvoir déjà rentrer en contact avec son public. Et ça, en tout cas, sur ces auteurs de premier roman, c'est ça qu'on a étudié de façon plus précise, les ventes se sont faites après ces débats. Donc on s'est dit, si on n'a pas le moyen de rémunérer tout le monde, qui on va mettre sur la table de dédicace ? Qui on va mettre sur les plateaux pour les rencontres ? Donc en fait, tous ces éléments-là, on s'est dit... On ne veut pas laisser les auteurs qu'on veut défendre, tous, qu'ils soient connus ou qu'ils soient moins connus, les auteurs connus de demain qu'on doit partager. On sait que dans nos domaines, sur la fantaisie, sur l'imaginaire, de façon générale, on n'est pas quand même énormément soutenu par la presse généraliste. Donc, voilà, si on coupe encore cette voie-là sur les festivals, c'est certainement dommage. Donc, en fait, on a été et on a pris le choix... de se dire on va monter sur la rémunération des auteurs à chaque fois en augmentant et en montant des marges de façon régulière de manière à arriver à une rémunération qui soit la rémunération du vraiment qui était préconisée à l'époque, qui est maintenant demandée par le CNL, mais qu'on puisse le faire de manière à ne laisser personne sur le bord de la route. Voilà, c'était ça qui nous a motivés.
En fait, la question centrale, que ce soit pour la rémunération des auteurs ou pour tout le reste, c'est quelle est la place de l'auteur ? Quel est le rôle de l'auteur ? Que ce soit dans l'édition, dans la chaîne du livre, que ce soit au sein d'un festival. Quelle est la question principale dans tous les combats, que ce soit de la charte, du SELF ou d'autres organisations, du SNAC BD par exemple, c'est essentiellement... Où est notre place ? Quelle est notre place ? Quand on sait que 40% des auteurs gagnent moins du SMIC, que plus de 180 000 auteurs gagnent nettement moins, et que la situation des auteurs avec des nouvelles taxes, etc., ne fait qu'empirer d'année en année.
Et j'ajouterais quelque chose de vraiment important, c'est que à chaque fois, j'ai l'impression, dans mon parcours, alors, c'est pas qu'on prend le problème à l'envers, mais c'est que tout se construit sur l'auteur, sur le principe de son bénévolat et sur le principe de sa bonne volonté en échange d'une visibilité ou en tout cas d'une carrière qui va progresser. Ça se comprend. Mais qu'est-ce qu'un auteur ? Un auteur, il va signer un contrat avec un éditeur où il cède une exclusivité sur son œuvre en échange d'un engagement de la part de l'éditeur qui est de prendre en charge la promotion de l'ouvrage. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'en permanence, on fait porter à l'auteur, et dans toute la chaîne du livre, ça c'est évident, sa propre promotion. On est quand même un des seuls métiers, parce que pour moi c'est un métier très clairement, pour lequel l'exclusivité d'un contenu peut même être gratuite, parce que parfois on ne va pas verser d'avaloir, etc. J'entends et je comprends très bien pourquoi les discussions avec la charte ont dû être assez virulentes à l'époque, parce que j'imagine les deux mondes qui se rencontrent, le monde de la littérature jeunesse avec cette rémunération qui est une norme, qui est acceptée depuis très longtemps, et justement un univers, là en l'occurrence des Imaginales, où voilà, le bénévolat faisait partie complètement de la construction pour les auteurs à ce niveau-là.
Je pense pas... Moi, je suis pas d'accord avec ce terme de bénévolat. Je pense qu'on n'était jamais sur cette notion de bénévolat. Elle ne nous a jamais effleuré à un seul moment. Par contre, je pense qu'on se rejoint complètement en se disant qu'effectivement, le droit d'auteur, il est globalement 10% entre 8 et 12, globalement, pour la littérature générale et notre littérature ici représentée.
En jeunesse, ça tourne plutôt autour de 4
voilà,
ou 5.
Alors moi, j'étais justement, et tu fais bien de le rappeler, Sarah, puisque ce qui m'interpellait, et la charte a apporté plein de bonnes choses, et j'en suis complètement convaincu, mais quand on me montrait effectivement les éléments de la charte, au début, en me disant, voilà le système qu'il faut, sur lequel il faut se caler, voilà un système idéal. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Moi, je n'ai jamais considéré que c'était un système idéal. J'ai considéré que c'était... quelque chose qui nous a permis, qui était nécessaire, qui permet effectivement de pouvoir se regrouper, échanger, faire des débats comme cela, faire évoluer des choses. Maintenant, ce n'est pas un système idéal, parce que si le système était idéal, on n'aurait pas des droits d'auteur à 5-6%, alors qu'on a des ouvrages qui ne sont pas très chers, souvent deux auteurs sur un même roman, sur un même ouvrage. Il n'y a aucune logique. Ça, c'est absolument, pour moi, indéfendable. Si la charte était absolument idéale, dans un monde idéal, on serait sur un droit d'auteur qui serait supérieur à 10%, avec une intervention d'un certain nombre, des participations qui peuvent être effectivement partout. Mais on n'était pas sur le bénévolat. Je tiens aussi à rappeler une autre... Pardon, je te passe la parole tout de suite. Mais une autre chose, c'est-à-dire que moi qui suis issu du milieu de la librairie, la logique qui était la nôtre, et même si effectivement le droit d'auteur, on peut se dire, il est un petit peu faible, etc., on invite des auteurs, alors ils vendent plus ou moins, donc ils gagnent plus ou moins, donc en tout cas, ils sont rémunérés par le droit d'auteur. Quand on les invite, c'était accepté ou pas accepté, c'était accepté, sinon c'était pas. Mais il pouvait y avoir des incitations des éditeurs, etc. Certains éditeurs participaient, etc. Mais nous, on payait systématiquement l'ensemble des choses. Donc en fait, on n'est pas sur quelque chose sur lequel on disait à l'auteur, toi, tu vas payer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Quand on est sur une invitation. En milieu scolaire ou quand on est sur une invitation sur d'autres éléments qui demandent un travail, je pense vraiment aussi peut-être un peu plus spécifique que le travail de promotion par rapport, et je comprends que ce soit un travail, j'ai du mal à le comprendre, mais je le comprends maintenant, je l'accepte complètement. Mais en tout cas, le travail en milieu scolaire va être différent du travail par rapport à sa promotion, par rapport à son livre dans lequel on est dans l'actualité, etc. Et ça, c'est en fait sur l'économie des choses. Donc en fait, qu'il y ait une rémunération qui soit un petit peu différenciée me paraissait moi aussi assez logique et normale. Maintenant, je suis toujours resté, et ça, je suis quand même assez convaincu de ça, c'est-à-dire que le droit d'auteur doit être pour moi la rémunération principale de l'auteur. On va pouvoir discuter des choses. Et derrière, qu'on puisse mettre en place des rémunérations complémentaires, je ne dirais pas accessoires, mais complémentaires, je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui. Ce n'est plus le débat. Et c'est très bien comme ça. Mais il ne faut pas que ça se substitue au droit d'auteur. Et je pense que ce ne serait pas une évolution qui serait positive si on fait de nos auteurs des animateurs socioculturels, et il n'y a pas de péjoratif, de côté péjoratif quand je dis animateur socioculturel. Mais je vois un certain nombre d'auteurs qui, dans la charte des auteurs jeunesse, ont participé finalement à quelque chose et ne pouvaient pas avoir de rémunération qui leur permette de vivre avec leurs droits d'auteur et qui, du coup, aller à la pêche, finalement, ce n'est pas là non plus péjoratif, mais à des rencontres qu'on pouvait faire en bibliothèque, en milieu scolaire, etc., pour pouvoir vivre, simplement. Il faut que ce puisse être un choix, que ça puisse être rémunéré d'une façon qui soit cohérente et acceptée, mais que derrière, en fait, on est auteur et on doit être rémunéré par rapport à ses lecteurs. Ça me paraît aussi essentiel.
C'est une évidence, et il y a un combat à mener à ce niveau-là, notamment au niveau des auteurs jeunesse. Et là, mais pour en revenir à cette question de bénévolat, et je ne vais pas parler particulièrement des imaginales, mais ça se résume en quelque sorte, vous venez faire votre promotion, ça se résume à « viens, ça va te faire de la pub ». Et ça, ça a un côté insultant pour les auteurs, comme pour comme le dessinateur, par exemple, à qui on va demander une affiche bénévolement en lui disant « ça va te faire de la pub ». Je ne parle pas des imaginales pour ça, mais ce sont des choses qu'on entend dans les métiers de la création, où on demande des services, on demande des actions bénévolement, avec une phrase qui est « tu vas voir, ça va te faire de la pub, ça va t'attirer des lecteurs, ça va t'attirer des spectateurs ». Et là, je ne parle pas des imaginales, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre aussi pour les auteurs, et c'est quelque chose d'insultant.
On est complètement d'accord. Alors, je crois, vous me corrigerez, mais il me semble que le nombre d'exemplaires moyens de livres vendus est de 763 livres vendus sur l'année dernière. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, voilà comment on peut vivre et comment on peut faire vivre une économie par rapport à ça. Mais une économie générale, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir, c'est-à-dire que il y a une deuxième chose qui est là, c'est-à-dire que ce combat aujourd'hui que vous menez sur les auteurs, qui est nécessaire, qui est, je pense, salutaire, hein, voilà, on est d'accord, il doit se faire en vraie concertation. Moi, ce que j'ai regretté sur la première réunion qu'on a eue au CNL, et ça s'est corrigé depuis, c'est que cette première réunion, on était trois festivals à représenter sans avoir aucune, on est arrivé mais vierge de tout, donc voilà, avec des syndicats d'auteurs qui s'étaient mobilisés, qui avaient travaillé, sur lequel on n'avait pas échangé du tout. Donc ça a été la première version, donc c'était violent. La deuxième chose, c'est que petit à petit, dans ce que je vois, donc il y a un mouvement et je comprends cet élément que tu dis, et je l'ai jamais vu, parce qu'en fait, dans tous les endroits où j'étais, je pense qu'il n'y a pas eu ce discours-là. Mais
justement, ce n'était pas une attaque envers vous,
mais c'est quelque chose
que vivent énormément de créateurs.
Et du coup, ce que j'ai regretté, c'est qu'autour de la table, il n'y avait pas tous les gens, tous les représentants de la filière, parce qu'on est quand même, et là on parle d'économie, et c'est pour ça que je ne dénie pas qu'on fasse partie d'une économie et d'une filière. Moi, je suis plutôt fier qu'on puisse aux imaginales faire des débats qui sont des débats culturels, qu'il puisse y avoir des échanges d'idées, qu'on puisse avoir des éléments comme ça. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose d'essentiel. Je suis fier que ce festival et petit à petit permis à ce qu'il y ait une rencontre de plus en plus importante entre des lecteurs, c'est-à-dire des acheteurs de livres, et qu'on ait aujourd'hui un niveau de vente de livres qui est un niveau de vente de livres très important, et je pense que ça permet effectivement de rétribuer aussi tout le monde de cette manière-là et toute la filière. Et je reviens en fait sur cette partie, cette rencontre, c'est-à-dire que j'entends de temps en temps des discours, je l'ai entendu encore il y a quelques jours, en disant bah « Oui, mais tu te rends compte, nous, auteurs, on passe du temps, alors c'est sûr, mais le libraire, t'as vu ce qu'il se fait? Il se fait 60%. » C'est pas normal.
C'est plutôt
alors,
40, hein.
C'est... Déjà, cette personne est mal informée. Alors oui, il y avait déjà... Mais c'est quand même tout à fait, éclairant. C'est-à-dire que ces 60%, souvent, ça comprend aussi les frais de diffusion et de distribution. Donc, en fait, souvent, Et on confond un petit peu les choses, on ne comprend pas le métier de l'autre, on voit pas qu'il y a des difficultés ailleurs. Alors en fait, des difficultés, il y en a tout au long de la chaîne du livre. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit absolument, enfin de façon globale, il peut y avoir des exceptions, etc. Mais de façon globale, je crois que chacun, pour des libraires, c'est difficile. Pour des éditeurs, c'est difficile. Pour des auteurs, c'est très difficile. Pour des salons, c'est difficile aussi. Et souvent, c'est effectivement, si on n'avait pas cette subvention, enfin, si les collectivités territoriales n'étaient pas engagées par rapport à ça, il n'y aurait pas de salon. Donc, ce que je veux dire, c'est que je participe aussi, maintenant, je représente, au niveau que ce soit de la région ou de la DRAC, sur les différents dispositifs d'aide à l'économie du livre, je représente le milieu des festivals, donc ça me permet de voir effectivement un certain nombre d'acteurs institutionnels, d'être, et je pense qu'on porte une même parole, mais je suis extrêmement étonné de la méconnaissance des milieux et des spécialistes des métiers de chacun. C'est-à-dire qu'on a des hyper spécialistes qui sont là, donc il y a un représentant de la librairie, donc il défend ses éléments, il connaît, il dit « Ah ben voilà, c'est difficile pour nous, etc. » Il y a un représentant des autres, « Ah ben c'est difficile pour nous, évidemment. » Il n'y a pas les distributeurs, les diffuseurs, ils ne sont pas là, donc en fait, eux, ils s'en prennent plein les mirettes si à un moment on pense à eux, en fait, globalement. Et je pense que ce qu'il faut, c'est de pouvoir créer un débat qui soit un débat positif et serein sur lequel on puisse comprendre les difficultés de chacun. C'est comme ça et c'est, je crois, ce qu'on a réussi à faire, en tout cas avec le CNL, par rapport à, en tout cas sur les imaginales, ce qu'on a monté, les engagements qu'on a pris, de façon à être complètement en ligne. On espérait 2019-2020, on le fera en 2019. Mais voilà, ça a été une prise en compte que le CNL a pu avoir à l'époque quand il nous a dit bah oui, on comprend, etc. On est d'accord pour faire quelque chose qui puisse être étagé, parce que vous êtes dans la volonté que la philosophie de l'action était là, mais de façon à ce qu'on ne mette pas en péril l'ensemble des équilibres. Voilà.
Je voulais juste préciser quand même, avant de donner la parole à Lionel qui ne l'a pas encore eu, et c'était aussi important, je voulais aussi préciser quelques petits points et soulever des pistes qu'on ne pourra pas aller au-delà. De toute façon, on rediscutera cette fois-ci pas sur la rémunération des auteurs, puisque ça va être réglé, aux imaginales en tout cas. Donc en 2019, le sujet sera clos complètement. Il va être clos à la fin de ce festival, puisqu'on sera déjà dans la préparation du suivant. Et vous le savez, peut-être que vous n'étiez pas là hier soir, mais à la remise des prix, c'était déjà en ligne sur le site pour que ça soit parfaitement clair. Mais le maire a tenu à réaffirmer sa solidarité, son estime et son soutien aux auteurs, et a confirmé que la ville d'Épinal, c'est donc public, c'est écrit, c'est dit par le maire en public, rémunérerait l'ensemble des interventions des auteurs invités. Et comme de toute façon, chez nous, se confond auteur invité et auteur en débat, la question ne se pose pas. Il n'y aura pas d'auteur non invité en débat, y compris parce que là, on ne peut plus. Donc, c'est cadré, c'est calé et c'est dit. Donc, il n'y a plus de sujet de discussion, peut-être pour le passé, mais tournons-nous vers l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de débat entre nous, il n'y a pas de polémique entre nous. On va marcher dans la même voie et... des festivals, certains peut-être n'ont pas compris encore, on va les aider à comprendre, mais nous sommes aujourd'hui, je crois, à l'issue de cette table ronde, je crois pouvoir dire que nous sommes des alliés sur cette bataille
et
pour le statut des auteurs, des partenaires sur le statut.
Le terme de partenaire est très important.
Absolument.
Parce qu'on sort des luttes de pouvoir,
tout à fait.
Que ce soit avec les festivals,
fait.
Avec les éditeurs,
tout à fait.
C'est une relation de partenariat. Ce que je voulais dire, c'est que il y a 20 ans, la vente moyenne d'un livre en imaginaire, c'était 5000 exemplaires. Aujourd'hui, si on en vend 1000, on est très content.
C'est aussi le problème de surproduction, mais c'est des débats qu'on abordera, si vous voulez bien, l'année prochaine. Je calerai une conférence à 18h, ce qui nous permettra d'avoir au moins une heure et demie de discussion, parce qu'on a besoin d'approfondir. Juste avant de donner la parole à Lionel, je veux insister sur un point. Nous allons aussi discuter avec les éditeurs, parce qu'on parlait de promotion. L'idée dans le contrat d'édition... Il y a l'engagement de l'éditeur à faire la promotion du livre, c'est-à-dire le diffuser, premier élément, dans la librairie, c'est-à-dire faire des services de presse aux blogueurs, aux journalistes, aux critiques et aussi aux responsables de festival. Je tiens à le dire ici, j'en profite. Il y a des gens qui font leur métier, d'autres pas, que les auteurs me posent la question. Il y a parmi certains de vos éditeurs, il y a des éditeurs qui refusent de m'envoyer vos livres. C'est-à-dire qu'ils ne me les envoient pas alors que je suis quand même la personne qui va... évidemment avec le soutien de Stéphane, décider des invités du prochain festival. Donc il y a des gens qui ne tiennent pas leurs engagements de contractuels en pratique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas envoyer un service de presse à la ville. Et le dernier point, et Nadal va donc pouvoir s'exprimer. J'en suis désolé qu'il n'ait pas eu beaucoup la parole, mais peut-être parce que le débat qu'on devait poser sur les réticences parfois de certains auteurs par rapport à la rémunération sont en train de tomber et que les réponses que nous, y compris, on essaie de donner, je crois, elles rassurent, puisqu'on ne va pas abandonner les jeunes auteurs et la promotion. Mais il va falloir aussi qu'on réfléchisse pour aider les festivals, faire aussi en sorte que tout le monde se cale. Je ne vais pas le citer, je ne veux pas être désagréable et j'y ai des amis, mais un autre grand festival d'imaginaire a deux statuts. Il y a les auteurs invités par le festival qui sont rémunérés, ils apparaissent donc comme cadrés, mais il y a plus de la moitié des auteurs qui sont invités par leurs éditeurs, ce qui est quand même une belle entourloupe, et qui du coup ne sont pas rémunérés. Je pense que ça pouvait fonctionner un ou deux ans. Maintenant, il faut se caler. Nous, on s'est calé. Il faut que les autres se calent. Et je pense que certains grands festivals que je ne nommerai pas feraient bien de se caler rapidement parce que sinon, je pense qu'il va y avoir des fâcheries. Lionel, tu faisais partie justement des auteurs qui avaient des réticences, non pas sur le constat de nos amis syndicalistes, non pas sur cette discussion, mais qui avaient des réticences sur la rémunération, le principe, qui avaient des réticences sur la rémunération totale, en particulier des festivals qui faisaient la gratuité des entrées. Peux-tu nous expliquer ces réticences et puis comment tu as peut-être évolué aussi sur cette question ?
Alors moi, je suis le candidat de la table ronde parce que je ne suis membre de quasiment rien et actif nulle part.
De la TLF peut-être si.
Je suis membre de la TLF, mais je suis pas actif. Enfin, je veux dire, je suis pas actif là-dedans.
L'association des traducteurs.
L'association des traducteurs littéraires de France. Moi, mes combats situés ailleurs, plutôt sur l'écologie, etc. Il faut choisir ses combats. On peut pas tout faire. Donc mes réticences à la base, donc moi j'avais fait un billet assez énervé. Donc, moi je vois ça donc du coup de la base de mon niveau et plus en tant qu'éditorialiste en ligne. Effectivement, j'avais des réticences sur le principe de rémunération des auteurs en festival parce que justement je craignais ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'arrivée des jeunes auteurs. J'ai la chance d'avoir réussi à perdurer un peu dans ce métier. J'étais, comme on dit, j'étais hier l'auteur qu'on connaîtra demain. Et j'ai eu beaucoup de genre, merci, les lecteurs, pour ça. Je vois les choses, moi, à la base, juste deux secondes de contexte. Moi, à la base, je suis ingénieur agronome. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, c'est un entrepreneur de start-up qui est fan du développement durable. Ça existe. Et la culture à ceci de près que moi, elle m'a toujours semblé extrêmement parallèle avec l'écologie, c'est-à-dire que écriture est un métier, vendre des livres est un métier, les diffuser est un métier, et si les gens qui font des métiers ne mangent pas, ils arrêtent de faire ce métier et toute la chaîne se casse. Mais à travers ça, ce qui rend extrêmement toutes les discussions, tout ça sont des équilibres dynamiques qui changent constamment et qui sont appelés à changer de plus en plus avec un truisme de dire la mutation des marchés de l'économie. Et pour moi, il reste toujours dans la culture une part d'ineffable. C'est-à-dire qu'on vend des livres, on vend du travail, etc. Mais la société au sens large est ainsi mal foutue que nous vivons dans un monde capitaliste et marchand et qu'on doit essayer de trouver une manière de vendre des œuvres de l'esprit. Comment on associe un prix à une œuvre de l'esprit ? Ce n'est pas autant qu'on va passer. On peut passer 8 ans sur un bouquin et il peut s'avérer pourri, comme, si je ne me trompe pas, Philippe K. Dick écrivait des livres en 3 nuits blanches, et c'était génial. Donc il n'y a pas une question de temps. C'est tout ce qui est rapport à la propriété intellectuelle, à la création, est toujours extrêmement difficile à quantifier au sens économique du terme. Alors, tout le code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc., est toujours né de questions, de discussions, de péréquations, de construction, et ce sont constamment des équilibres dynamiques qui sont en construction. Donc, moi, j'avais des réticences sur la rémunération, mais les choses évoluent parce que ce sont des équilibres dynamiques qui évoluent. Et comme l'a rappelé Samantha, des fois, ça ne se fait pas sans un certain nombre de frictions parce que le changement est toujours difficile. Mais moi, par exemple, j'ai fait partie des gens qui étaient très énervés concernant la rémunération des auteurs à Livre Paris, parce que Livre Paris, c'est... Voilà, alors peut-être qu'ils ne me réinviteront plus jamais, mais ce n'est pas grave, c'était mon éditeur qui payait mes frais, donc voilà, je m'arrange avec mon éditeur. Livre Paris fait payer l'entrée, et Livre Paris, je n'ai jamais même... Donc Livre Paris fait payer l'entrée, et personne n'est rémunéré. Enfin, excusez-moi, les auteurs, parmi les auteurs, personne n'est rémunéré. Vous avez vu les biais cognitifs, hein, personne s'est devenu les auteurs pour moi. C'est-à-dire que les visiteurs payent leur entrée, assez cher, les stands sont loués par les éditeurs, etc. J'ai été invité à Livre Paris, j'ai été invité par mon éditeur, j'ai eu zéro contact avec l'organisation de Livre Paris. C'est-à-dire que mon interlocuteur, j'ai dit, voilà, quand on a dit on va boycotter Livre Paris, moi j'ai dit, mon interlocuteur, c'est mon éditeur. Mon éditeur a engagé des frais pour moi, c'est un petit éditeur, je ne vais pas l'embêter, etc. Mais je suis complètement d'accord que c'est un scandale. C'est une machine commerciale, Livre Paris. Même s'il y a des missions culturelles, etc., ça me paraît quand même une machine commerciale. Moi, je fais... Voilà, en tant que un auteur, c'est un entrepreneur. C'est aussi une des difficultés de ce métier, c'est que on a des aspects de création, c'est le cœur de notre métier, c'est créer des bouquins, c'est raconter des histoires, c'est un aspect de création et d'artiste. Mais ce qui est difficile, c'est que, vu la manière dont les mondes et les sociétés sont faites, en tout cas à l'heure actuelle, l'auteur se doit d'avoir un côté entrepreneur, et c'est difficile parce que c'est pas du tout le même métier. Moi, j'ai la chance d'être armé pour ça, parce que, voilà, mon cursus. Donc, mais voilà, moi je vois une différence entre un petit événement, par exemple, de province, où je vais, par exemple, quand je fais une conférence, j'entends, moi je fais une différence sur la table ronde, c'est-à-dire le débat comme ici, où on discute, ou quand je parle de mes bouquins, ou une conférence, c'est-à-dire moi tout seul, one man show pendant une heure et demie, deux heures, où ça demande de la préparation, etc. Par exemple, je ne vais pas demander le même tarif ou les mêmes conditions, un petit festival de province qui fait venir 1000 personnes et qui a une entrée gratuite, à Livre Paris, qui est une espèce d'immense machine qui fait louer les stands et qui fait payer l'entrée. Ça concerne ma propre décision, je veux dire le gros mot, d'entrepreneur. J'aime bien le terme de partenaire que tu disais, Sarah, parce que quand on parle de la chaîne du livre, mon éditeur est un partenaire économique. Le libraire, après, plus tard, ce sont des partenaires économiques. Quand je signe un contrat avec un éditeur, par exemple, je ne signe pas en dessous de 10% de droits. Et si jamais... Alors après, j'ai des volants d'ajustement, on peut discuter de conditions d'exclusivité et tout, etc. Mais par exemple, mon truc, ma décision d'homme d'affaires, c'est j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je suis en littérature adulte. Mais en dessous de 10%, c'est trouvons des volants d'ajustement, baisser l'avance, on s'arrange, mais je signe pas en dessous de 10%, par exemple. Si vous voulez pas signer, c'est pas grave. C'est l'économie qui fait que, eh bien, je vais aller... I will take my business elsewhere. Je vais aller faire des affaires ailleurs. Je vais pas citer son nom, mais c'est une autrice, quand j'étais tout jeune auteur, qui m'a donné cet excellent conseil, qui m'a dit, quand on est jeune auteur, on n'ose pas trop se défendre, mais en fait il faut le faire, parce que c'est comme tout dans l'existence et dans la vie. Alors évidemment, il faut le faire avec raison et sagesse, mais c'est comme tout dans la vie. Si on se défend pour faire ses droits, d'une part, ça montre que vous êtes un vrai professionnel ou une vraie professionnelle, et en plus on vous respecte.
Et je pense que là, ce qui est en train de se passer, qui est absolument inédit, qui s'est cristallisé autour de Livre Paris, parce que, bon, en même temps, avec l'histoire du budget plante verte par rapport aux auteurs. Donc, pour la petite anecdote, Livre Paris, d'après nos informations, a supprimé les plantes vertes juste avant. Car évidemment, si des selfies avec des plantes vertes étaient prises, ça aurait sûrement été une mauvaise com. Non, mais j'adore, je trouve ça hyper drôle. Pour le coup, c'était une bataille. C'était une bataille hyper drôle sur les réseaux sociaux, hein, sincèrement. Et on avait trouvé ce truc des plantes vertes pour dire si un salon ou un festival, bon, Livre Paris, c'est le pôle extrême de la balance, a les moyens de payer tout le matériel, etc. Rappelons ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un festival? Ce sont les auteurs qui sont présents. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un livre? Ce sont les auteurs. C'est la source du tout. Nous sommes dans un système complètement étrange dans lequel celui qui a la source de tout est le moins rémunéré ou le moins pris en compte. Ça change les mentalités et c'est la première fois qu'il y a des luttes. Alors, c'est militant, et d'un autre côté, la charte, pour resituer, ce n'est pas un syndicat, c'est une association. Donc, on a un budget qui est bien inférieur à celui des Imaginales, pour préciser, et ce sont des auteurs bénévoles.
Voilà. Et le SELF a un budget très, très petit aussi. Et je voulais juste signaler que, par contre, la Foire du Livre de Bruxelles, depuis 3 ans, a décidé d'avoir une entrée gratuite. Et extraordinaire, les gens achètent plus de livres.
Bizarre, hein. Alors, il y a quand même quelque chose, parce que nous, on nous a demandé aussi, pour pouvoir appliquer ça, on nous a proposé, je ne l'ai pas dit, mais on nous a dit, mais faites payer l'entrée, c'est complètement ridicule de ne pas faire payer l'entrée. Il était hors de question qu'on fasse payer l'entrée. On a un festival qui accueille énormément, notamment de publics ados, qui ne sont pas, il y a peu de festivals qui les accordent. Il était hors de question qu'on fasse payer l'entrée, et les conditions qu'on a mis en œuvre étaient effectivement des conditions qui permettent à un festival qui n'a pas de ressources financières propres. Tu rappelais qu'on a certainement un budget supérieur au budget de la charte, ça me paraît évident. Mais
le budget, la très très grosse partie du budget, l'énorme partie du budget est sur la partie artistique. La partie artistique, je recommence, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire le déplacement, les défraiements pour les déplacements, l'hébergement pour qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en fait tout ce qui est le travail de Stéphanie, tous ces éléments-là, c'est la très très grosse part du budget. Et on s'est mis en œuvre durant 3 ans pour pouvoir accueillir des partenaires économiques supplémentaires de façon à pouvoir progressivement rentrer dans un domaine qui soit plus respectueux certainement et plus dynamique par rapport à la filière livre.
Je dirais que dans mon cas, c'est une petite participation. Voilà. Paye ta directrice artistique, Stéphane. Non, juste, Lionel Davos.
Juste un truc, juste pour revenir un peu sur cette histoire de culture vue comme développement durable et comme truc ineffable, c'est que quand un événement comme les Imaginales, tout un salon du livre qui a une entrée gratuite, qui pour moi est un point fondamental dans la manière dont un festival fonctionne, parce que évidemment ça prive d'une importante rentrée d'argent, mais aussi ça place pour moi très directement le festival avec une mission culturelle claire. Un événement qui a une entrée gratuite dans un festival, ce qu'il fait, c'est qu'aussi il va apporter, alors fait de littérature de l'imaginaire, c'est pas les plus considérés au monde, ça c'est, on le sait. Et en plus, fait une promotion autour de la lecture. Et la lecture, c'est, on le sait, c'est un petit peu compliqué en ce moment, d'amener les gens à la lecture et parfois à des bouquins exigeants. Il y a tout un travail de fond qui se fait, je connaissais ça beaucoup mieux que moi, mais il y a des structures qui se chargent, j'essaie de promouvoir ce genre de choses. Pour moi, cette mission culturelle, en ce qui me concerne, ma décision d'homme d'affaires, c'est si on me dit il y a un festival avec une entrée gratuite, est-ce que tu veux venir porter un peu le poids économique de la promotion en sens large en faisant des interventions gratuites, ça me choque pas forcément toujours outre mesure, parce que ma décision d'homme d'affaires, c'est de me dire de manière générale, mais ça c'est la vision de l'ingénieur agronome développement durable et candide, c'est que de manière générale, je me dis c'est une question de promotion de la culture, c'est une question de promotion de la lecture. Promouvoir la lecture et ma littérature, même si ça ne se répercute pas directement en termes de vente directe sur mes bouquins, ça nourrit l'arbre, en un sens. Alors, évidemment, tout ça se négocie en fonction de la taille de l'événement, en fonction de comment ça fonctionne, etc. C'est des choses qui sont coup par coup, mais ça, voilà, je ne vais pas vous faire, mais je pense que je ferai un article là-dessus un jour, je ne vais pas vous faire toute la théorie de la pêche et d'exploitation forestière, même si c'est rigolo et que c'est intéressant, mais ce qu'on se trouve, c'est que dans ce genre d'économie, d'équilibre et d'économie, en général, ce qui contribue au tout, contribue à l'échelon individuel. Et finalement, pour moi, c'était la question, c'est ce que représente la chaîne du livre, qui n'est pas toujours... des fois, il y a des abus parce qu'on reste dans des systèmes capitalistes et marchands, mais cette notion d'ineffable, elle est d'autant plus compliquée à quantifier, et c'est pour ça que je rends grandement hommage aux 4 personnes qui sont ici d'arriver à se parler ensemble, parce que c'est ce qui permet de contribuer à construire ces équilibres dynamiques, et à mon humble niveau, on en bénéficie.
Ça nous fera, je pense, une jolie conclusion. Je conclurai juste à ma façon pour dire que nous allons appliquer donc l'année prochaine, ce qui veut dire qu'il y aura quelques modifications, mais qui ne se verra pas du public essentiellement. Ça veut dire que la qualité, l'ampleur et la façon de faire du festival ne changera pas. Je pense que là, on peut rassurer tout le monde. Les auteurs seront rémunérés pour toutes leurs interventions. Il y aura peut-être un tout petit peu moins d'invités, pas de présents, mais peut-être moins, un peu moins, parce que c'est nécessaire. Il y aura peut-être des choix plus affirmés, mais il y aura toujours cette diversité. Il y aura autant d'auteurs de premiers romans, il y aura toujours le coup de cœur, il y aura des auteurs étrangers, il y aura la jeune génération, il y aura nos prix, écoliers, collégiens, lycéens, bibliothécaires, il y aura les prix imaginales, il y aura plein d'idées nouvelles. On va essayer de trouver encore des partenaires pour y compris dégager des budgets, pas seulement pour les auteurs, mais aussi pour développer encore le festival. Et on tient à le dire, ces partenaires de tout genre sont extrêmement importants. On va reprendre le dialogue avec le Centre national du livre et Vincent Monadet, son équipe, pour, je l'espère, je crois qu'on peut l'espérer très sérieusement, sans pouvoir l'engager encore, une augmentation de la subvention pour aider à ce dernier cap de la rémunération. Je rappelle quand même pour ceux qui disaient n'importe quoi, parce qu'il y en a qui ne sont pas non plus compétents chez les auteurs, il faut qu'ils se forment aussi aux questions syndicales, si je puis me permettre. Je suis une ancienne syndicaliste et peut-être que je vais le redevenir pour qu'on paye les auteurs et tous les acteurs un peu mieux et de façon plus digne. En tout cas, une chose est sûre, Non, la subvention du CNL n'est pas destinée à rémunérer les auteurs. Elle est destinée à aider les festivals. Et les festivals, pour être rémunérés, pour avoir une subvention du CNL, eh ben, ils doivent, ça fait partie de l'ADN du festival, c'est une des exigences, ils doivent rémunérer
c'est
les auteurs.
C'est une condition d'obtention.
C'est une condition d'obtention.
De subvention, voilà. Que ce soit à la SOFIA ou au CNL.
Absolument, c'est une condition qui, dans le nouveau contexte, me paraît légitime.
Donc, quand on a une subvention, on doit payer les auteurs.
Absolument, mais la subvention n'est pas totalement destinée aux auteurs. Donc, il faut la monter pour qu'on puisse aussi avoir les auteurs.
Je rappellerai que ça a été aussi, et on s'est engagé dans le paiement des auteurs sans forcément avoir de subvention.
Absolument.
Mais on a un accompagnement, on est sur quelque chose. On a toujours discuté, pour rappeler, en fait, on a toujours une discussion sereine, intelligente et constructive. Et je crois qu'on évolue tous. Et voilà.
Et on conclut donc dans une unité, si elle a été légèrement écornée, si parfois on a pu ne pas se comprendre, ou si on y a pu avoir des tensions parce que peut-être que certains souhaitaient un rythme d'une année plus rapide. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord. Et donc, ce que je n'aurais peut-être pas pu faire il y a encore quelques jours, Samantha, bien sûr, c'est toi qui décides, puisque tu es la présidente de la charte avec ton équipe. Mais si je suis la bienvenue, à titre personnel, et ça n'engage pas le festival, je te proposerai mon adhésion à la charte, où je me reconnais.
Et je... Vas-y.
Mais bien sûr, Stéphanie, je t'en prie. Tu recevras nos chartes infos sur les festivals.
Et je voulais dire que j'ai été chargée par la coprésidence du CELF de remercier le festival de nous avoir fait, participer le syndicat des écrivains de langue française à ces discussions.
On peut applaudir.